C'est bon pour la santé, un magazine animé par Sophie Stanquet et Benoît Rassette.
Elle est entrée dans le monde de la chanson comme une tonne de rock. Son album Hannibal fait rugir les radios pour qu'elle ose ensuite le silence des roses. Elle se présente de plus en plus humainement avec, hors de tout doute, les autres, le présent. Elle se voit aujourd'hui encore plus comme une musicienne et ça s'entend dans les cliquetis soyeux de Bubble Bath et Champagne 1 et 2. Sa musique, encore plus subtile, danse aujourd'hui avec son engagement pour la santé et l'environnement. Alors, on vous la présente en mille. France D'Amour est avec nous aujourd'hui, toujours sur la piste de la santé.
Bonjour, France D'Amour.
Bonjour. Premièrement, merci pour la très belle présentation.
c'est pétillant. Hein?
C'est pétillant et c'est juste.
Merci, France, d'être là pour notre première émission. C'est notre première aujourd'hui, mesdames, messieurs. On est très fiers de vous présenter cette émission qu'on a concoctée pendant plusieurs semaines.
Ah oui, à vous, ça nous a animés au plus fort.
Exactement.
Mais c'est France D'Amour qui nous a surtout animés en cette première émission.
Tout à fait, c'est une invitée de choix. Et justement, France D'Amour, c'est la santé. On a vu beaucoup de choses sur vous, votre sortie, votre préoccupation. Puis on avait envie de passer du temps avec vous pour connaître le pourquoi des choses à ce niveau-là. Pourquoi ça a changé dans votre vie. Alors nous, c'est plus au niveau de la santé, c'est sûr que la carrière est toujours là, elle va être présente tout au long de l'émission, mais on a envie de savoir comment ça a été, comment vous avez pris une position, une nouvelle position au niveau de votre propre moi intérieur, extérieur. Qu'est-ce qui s'est passé pour changer des choses dans votre vie?
Bien, premièrement, la santé, c'est important parce que, et même je le remarquais dans les vœux du temps des fêtes qui vient juste de passer, je pense que le mot, la chose que les gens le souhaitent le plus, c'est la santé. Vous avez remarqué, oui, joie, bonheur, prospérité, mais santé, c'est le truc qui revient parce que sans la santé, il n'y a pas rien d'autre qui suit. Tu ne peux pas atteindre tes buts, tes rêves. Donc, vraiment, la santé, c'est à la base de tout. Et je dirais que plus jeune, la santé, c'était plus une affaire de sociologie dans ma vie, c'est-à-dire que j'avais envie de connaître le monde, ouvrir mes connaissances, parce que moi, je viens d'une petite famille où on mangeait steak, patates, blé d'Inde.
Puis
le macaroni au fromage. Et puis c'était très... ma mère sortait pas beaucoup des sentiers battus, vraiment, au niveau de l'alimentation. Donc moi, il y avait une question d'exploration. Puis après, il y avait une question de respect aussi de l'environnement. Donc le biologique, le organique, sans virer folle avec ça, là, je veux dire, je demande pas que la poule ait un secondaire 5 là, pour que je mange chez eux. Mais je fais attention en même temps. Puis j'ai vu les bénéfices sur ma santé aussi. Tu sais, j'ai quand même une différence quand on mange bio puis quand on mange pas bio ou quand on mange vraiment mal. Je parle surtout de la fast-food et tout ça. Donc, ça m'a intéressée toujours depuis très jeune.
Est-ce que plus jeune, parce que moi, j'entendais des histoires de famille où justement, c'était traditionnel, est-ce que vous aviez envie de dire, ben non, moi, j'ai pas envie de manger de steak patate. Est-ce qu'il y avait cette envie de changer les choses dans votre famille où vous disiez, bon, c'est ça, j'aimerais découvrir autre chose, mais c'est ça qu'on m'impose? Est-ce qu'il y avait cet éveil-là?
Ben, il y avait le goût de découvrir, mais je rejette pas du tout les repas traditionnels. Je les aime encore. Le pâté au poulet à ma mère, j'y tiens. C'est tarte aux pommes, j'y tiens. Mais j'avais envie plutôt de découvrir autre chose, de pas être limitée. Puis je me rappelle qu'on mangeait pas beaucoup de légumes. Et je me rappelle, la première fois, j'ai mangé du brocoli. Puis en fait, même du brocoli, j'en ai mangé plusieurs fois quand j'étais jeune. Puis c'était toujours congelé. Puis quand elle faisait décongeler, c'était tout mou. C'était pas tellement ragoûtant.
C'était même le symbole. Le brocoli, c'était le symbole du légume. Celui que les enfants ne voulaient pas manger. Il fallait mettre beaucoup de fromage dessus pour l'avaler.
Oui, c'est ça. Il était tout mou. Mais j'aimais ça, moi. J'aimais ça, le brocoli. Pour te donner une idée comment j'avais besoin de manger des légumes. Et donc, c'est plus par exploration, par le sens de la découverte. J'ai toujours été quand même concernée par la santé, par ma santé. J'avais toujours envie j'ai toujours été une petite fille nerveuse. Puis après ça, quand j'ai commencé à jouer dans les bars, je performe.
Ben c'est
je
ça.
Devais performer. Je pouvais pas en plein milieu de la soirée commencer à être fatiguée. Donc, il fallait que je mange bien.
Parce que dans les bars, c'est difficile. Je veux dire, il faut d'abord avoir une voix impeccable. À l'époque, Hein, c'était permis de fumer. Donc, ouais. C'était... En plus, il y a l'air climatisé l'été, il y a toutes ces choses-là.
Ouais.
La fumée, l'air climatisé, le fait de travailler le soir et le matin, c'est pas toujours facile d'avoir le repos. Alors, comment vous faisiez pour retrouver l'énergie? Est-ce qu'il y avait une conscience? Parce qu'il y a l'alcool qui rentre, il y a les drogues, évidemment, mais il y a toutes sortes de choses qui sont pas bonnes pour la santé.
Bien, c'est ça. Donc, effectivement, j'avais une vie, puis j'ai eu un enfant jeune aussi, donc je jumelais le rôle de mère à travers tout ça aussi. Donc, au début, j'ai géré avec les quantités. Je mangeais beaucoup. Et puis, à un moment donné, je voyais que c'était pas ça. Que des fois,
beaucoup?
Je mangeais énormément. En fait, non, je mange
que vous
encore
cachiez
beaucoup.
Ça?
Non, mais je suis une personne qui aime... Oui, et pourtant, je mange énormément. C'est vraiment, vraiment... c'est ça. Mais ça, c'est la génétique.
Encore?
Oui, encore. Énormément. Donc, il faut d'ailleurs que ça, c'est ma prochaine étape. Il va falloir que je réduise les
portions.
Alors,
manger beaucoup pendant les spectacles aussi, avant un spectacle? Ou...
Avant un spectacle, entre les spectacles.
Carrément comme un joueur de hockey, là, le spaghetti et tout
j'ai,
ça?
Ah, voilà, j'ai déjà, en deux spectacles, mangé une boulette de steak haché comme ça, direct.
Même pas de sauce.
Même pas de sauce, rien comme ça, j'ai besoin de protéines. Donc, justement, le fait que j'avais une grande appétit, puis il fallait que je mange beaucoup, puis que je reste en forme, ben ça aussi, ça m'a mis à l'affût, en tout cas, de tout ce qui s'écrivait et ce qui s'écrit encore. Je continue à lire des livres encore. Je viens de terminer un livre, justement, sur une nouvelle qui s'appelle le Plant Paradox. En tout cas, qui parle des lectines, j'imagine que vous avez entendu, vous connaissez ça. Donc, mais j'ai toujours, depuis le tout début, là, mangé cru. Adèle Davis, qui est une référence dans les vitamines et tout ça, est celle qui a fondé aussi Manger Vert, Manger Santé, le salon Manger Santé, celle qui écrit René Frappier, qui écrit deux livres. J'avais lu ça dans les années 80. Donc, j'ai toujours été intéressée. Puis, tous les courants de pensée, ça m'intéresse vraiment pour le bien-être de moi-même et de ma famille et des gens.
C'est parce... Et de l'environnement aussi, France?
Et de l'environnement, absolument. Donc, tout ça, pour moi, c'est une... Je pense que c'est important d'avoir une conscience parce que la machine marketing en alimentation est tellement grosse que c'est difficile de faire la part du vrai et du faux, de ce qui est vraiment bien puis de ce qui est pas vrai, puis qu'est-ce qui est exagéré, puis qu'est-ce qui est pas vraiment bio, puis qu'on prétend qu'il est bio. Donc,
oui, il y a plus à lire que les étiquettes. Il faut vraiment se renseigner pour être
ça.
Bien au courant de ce qu'on mange.
Il faut
ça, regarder avec beaucoup de suspicion aussi. Hein?
Absolument.
Il faut se méfier.
Alors, la nutrition, mais est-ce que ça veut dire qu'il y a un changement de... Est-ce que vous voulez, vous tendez à devenir végétarienne à ce moment-là? Ou c'est de la lecture simplement intéressée à se dire, bon, ben là, je mange mon steak, mais peut-être qu'à un moment donné, il va être éliminé ou ça continue...
Ben moi, je ne suis pas végétarienne.
Attention, là.
Non, ah oui.
C'est une déclaration.
C'est une déclaration. Non, mais je ne suis pas végétarienne, ça fait des années que je le dis. J'ai même un album qui s'appelle Animal.
Oui.
Donc.
Ça partait déjà la danse
c'est ça,
de la
c'est
chasse.
Ça. Mais c'est drôle parce que France, vous avez pris comme un petit temps d'arrêt en disant peut-être que je vais les décevoir, je ne suis pas végétarienne.
Non, mais je me fais dire ça tous les semaines. Ah, toi, t'es végétarienne
ça,
alors que je ne le suis pas. Je pense que j'ai une face de végétarienne.
Non, mais souvent, quand les gens se préoccupent de leur santé ou de la nature, etc. automatiquement, il faut qu'elle soit végétarienne.
Ah, peut-être
parce que
ça, effectivement.
France a parlé de beaucoup de livres qui étaient intéressants au niveau de la nutrition, puis je sentais une espèce de tendance. Je me suis dit, tiens, elle nommait des auteurs qui sont très verts, entre guillemets, et puis qui mangent cru et tout ça. Puis en général, ceux qui mangent cru ont éliminé la viande. Mm-hmm. Alors, c'est vrai qu'on aurait pu penser que la tendance de France allait aller là-dedans.
Je crois aussi, c'est que comme France est beaucoup documentée, elle a peut-être aussi lu des bouquins, notamment les bouquins de Sphère sur... Les poulets, comment est-ce qu'on fait pour les cultiver, entre guillemets, des usines à poulets.
Sans parler le foie gras.
Ça donne vraiment plus envie de manger un poulet.
C'est ça, mais en fait, c'est pour ça que je mange
du poulet bio. Mais vous avez le champagne, là, il faut se retrouver. Là.
On fait une petite pause et on revient tout de suite après.
We'll be right back.
C'est bon pour la santé, mesdames, messieurs. Merci d'être avec nous. Benoît Rassette à l'animation, Sophie Stanquet qui vous parle. Et nous recevons France d'Amour pour la première.
Et en plus, à table, il faut le dire, il y a aussi docteur François Baruel, qui sera le médecin invité très souvent à l'émission.
Le taquin coquin.
Le taquin coquin, voilà.
Alors, France d'Amour, on était. Donc, pas tout le monde pense que vous êtes végétarienne, mais vous n'êtes pas végétarienne. Puis fière de le dire aussi.
Mais par contre, je mange la viande bio, absolument. Mm-hmm. Mm-hmm. C'est sûr que quand je suis sur la route, en spectacle, j'ai pas le choix, tu sais. Je vais pas demander votre saumon, est-ce que c'est, sauvage ou d'élevage? Là, je peux pas. Les gens ne le savent même pas, de toute façon, les restaurateurs. Ouais. En tout cas, les serveurs, les serveuses. Donc, je suis pas regardante quand je sors, mais quand je suis chez moi, c'est vraiment très biologique, organique. Je lis les étiquettes. Ça m'intéresse au plus haut point.
Il y a eu quelque chose qui s'est passé tout de même dans votre vie parce qu'une prise de conscience, on a tous ça. Hein. Il y a quelque chose qui peut arriver, ça peut être très grave, moins grave, mais une prise de conscience par un événement. Et vous, ça a été des problèmes de peau.
Oui. Et il y a quelques années, j'ai commencé à avoir des kératoses, qui est pré-cancer sur la peau. J'ai une peau très sensible. Puis j'ai eu un carcinome sur le nez aussi. Donc ça, c'est un cancer. Et ça m'a vraiment... Et là, maintenant, écoute, si je pouvais mettre de la crème solaire sur mes toasts le matin, j'en mettrais. j'en abuse. Mais encore une fois, il y a une éducation là parce qu'il y a beaucoup de crème solaire qu'on nous dit, que c'est extrêmement dangereux parce que c'est la technologie nano, donc ça rentre dans le système et c'est très toxique. Ouais. Alors, je vais avec les crèmes solaires minérales, biologiques, qui restent en surface. D'ailleurs, ça fait peur quand on met ça, on a l'air d'avoir d'être des vampires, mais ça protège.
Alors, donc, je reviens à cette prise de conscience. On vous dit que vous avez ça. Quelle est votre réaction? Comment vous vous sentez? Est-ce qu'il y a un énervement? Est-ce qu'il y a... On se dit, ça y est, j'ai quelque chose à la peau. Je dois changer justement mon maquillage, je dois changer mes crèmes. Comment ça se fait dans votre vie?
Évidemment, c'est très stressant. Là, comme ils disent, the C word, le mot C. On n'aime pas l'entendre, celui-là, parce qu'on est démunis d'informations. Aussi, il y a tellement de controverses autour de ce mot-là dans la façon de le traiter. Il y a tellement d'opinions.
Puis il y a quand même une personne sur 20 qui va développer au cours de sa vie un cancer de la peau. Ça, c'est la Société canadienne du cancer.
Écoute, il y a 5000 maladies de peau et plus. Donc, ça, c'est une conscience qui m'est apparue. Heureusement, je suis un dermatologue fantastique, mais je viens de passer un mois en Floride. Là, j'ai pas mis aucun chandail à manches courtes. Je mets toujours des manches longues, même s'il fait chaud. Je mets toujours... J'ai une ombrelle, j'ai un chapeau, j'ai de la crème. Je vire folle un peu, là. Mais je vais sûrement me replacer, mais là, c'est comme... J'ai eu un signal de ma peau. Ma peau aime pas le soleil, ma peau veut pas, le prend plus.
Est-ce que vous aviez tendance à vous mettre de la crème avant?
Mais non, moi, quand j'étais jeune, ma mère m'a jamais dit « mets de la crème, va jouer dehors ». Elle disait « jouer dehors ».
C'est ça. Il faut pas oublier de protéger les enfants.
Ouais. Absolument.
On oublie toujours, on veut des enfants pain d'épices. Mais en fait, c'est très mauvais pour eux.
Hein. Oui, puis d'ailleurs, la stratégie, c'était « va-t'en dehors, tu vas noircir, tu vas brunir, ça va aller mieux ensuite. »
Donc là, jolie couleur, et puis... Ouais. Mais non.
Alors là, ça fait partie de votre vie de se dire « maintenant, je prends... » Même en hiver, là?
Ah oui, même en hiver. Mon dermatologue m'a dit qu'à partir de, je pense, c'est novembre jusque genre en mois de mars, il m'a dit « s'il n'y a pas de souci, t'as pas besoin de mettre de la crème solaire. » Mais à partir du mois je pense avril, me dit là, tu mets de la crème solaire toujours, France.
Et c'est pour ça, France, que vous êtes intéressée à être porte-parole, à une crème solaire. Comment vous êtes arrivée dans ce milieu-là, finalement, de dire voilà, je vais mettre mon nom, mon visage, mon énergie à faire la promotion de produits de beauté.
En fait, je suis pas porte-parole. J'ai carrément participé à la création d'un produit.
Okay.
Qui est 100% biologique, c'est-à-dire qu'on a, j'ai été d'une sévérité, j'ai renvoyé souvent les chimistes à leur laboratoire parce que je voulais des crèmes performantes, parce que j'en avais marre d'entendre « Ah oui, les crèmes bio, ça marche pas, puis les crèmes chimiques, ça a des résultats », alors que c'est plus comme ça maintenant. Les crèmes sont aussi performantes, sinon plus, et elles ont vraiment... C'est sans danger pour le système hormonal, pour endocrinien, toxines. Et j'ai vraiment fait un travail, en tout cas, vraiment,
puis le
avec ma sœur aussi.
Le développement de ces crèmes-là, ça s'est fait... de manière éthique, j'imagine. On
vous ah ben oui, c'est certifié, ouais. c'est certifié Écocert et
mais
tout ça.
Mais pourquoi pas porte-parole?
Vous aviez ben, pas... en fait, je suis... C'est mon nom.
Oui, oui, c'est ça.
Donc, moi, je ne suis pas payée.
C'est elle-même.
En fait, oui. C'est bon, moi-même. Alors, c'est dans le sens que je ne suis pas payée pour vendre le produit. J'ai été cobaye. C'est pour ça que je dis tester seulement... Pas sur les animaux, seulement sur les chanteuses. ma sœur, qui est dans la cosmétologie, m'a aidée aussi. Puis on a vraiment des produits qui sont bons, justement, pour les peaux sensibles, pour les gens qui ont des cancers, pour les peaux vraiment... Puis en plus, hyper performante, c'est des très, très bons produits. Donc, je suis super contente, mais c'est pas, je suis pas payée pour dire
alors,
ça.
Alors, si on veut les essayer, on va où pour les acheter? Comment ça s'appelle? Et puis, est-ce que... Il y a plusieurs produits, hein, vous disiez.
Absolument, il y a 6 produits pour le visage. Il y a une crème pour le corps. Et donc, ça s'appelle France d'amour BioLove. Et c'est dans les marchés tôt, les marchés d'aliments naturels tôt.
Tout à fait.
Et je crois qu'il y en a aussi à la première moisson à Sainte-Thérèse.
Ah, très, très bien. Alors, donc, une sensibilité. Est-ce qu'il y a dans la nutrition quelque chose que vous recommandez qui est un peu spécial, mais ça vous prend... Des fois, il y a des gens qui disent « ça me prend mon café » ou « ça me prend mon jus d'ananas avec toutes sortes de racines ». Vous, France, qu'est-ce que c'est?
Ben, moi, je dirais, en fait, je trouve que pour la santé, l'élément clé de la santé, c'est d'être entouré de gens qui sont gentils, aimants. Mmh. Je pense que la santé, ça commence par ton environnement. Quand les gens te stressent, quand les gens font en sorte que tu te sens diminué ou dévalorisé, je pense que même les médecins, vous serez d'accord avec moi, ont détecté qu'une grosse partie des maladies sont psychosomatiques et vient le stress. Et d'où vient le stress? Bien, le stress, c'est ton entourage. Donc, je pense que la santé, c'est ça.
France d'amour, est-ce que c'est ça que vous avez appris de manière durable dans votre vie, que c'est vraiment l'entourage,
ben oui,
les relations
j'ai
qui priment?
Vu. Moi, j'ai joué à un moment donné avec un batteur qui nous criait après, qui nous insultait. C'est horrible. Écoute, mon Ben était en train de mourir. Pas compliqué. Mon bassiste était rendu à l'hôpital. L'autre voulait lâcher la musique. C'était très dévastateur.
S'éloigner des personnes toxiques pour pas avoir de toxines.
Et voilà! Bien dit.
Alors,
on poursuit, parce qu'aujourd'hui, durant l'émission, on va non seulement être avec vous, France, mais rencontrer des chroniqueurs, chroniqueuses qui vont nous présenter toutes sortes de facettes de la santé et même du bio.
Parfait, ça.
C'est un bon deal.
C'est un deal.
Voilà. C'est pas exactement CRTC acceptable deal, mais c'est un deal.
J'écris love sur les murs de la ville. J'écris love, 4 lettres fragiles, tout comme nos cœurs, tout comme nos cœurs. J'écris love pour que vienne l'été. J'écris love pour nous dire d'espérer des jours meilleurs, plein de chaleur. J'écris love, love, love dans une bouteille à la mer. Love, love, love
fragile, tout comme nos cœurs, tout comme nos cœurs. J'écris love, love, love dans une bouteille à la mer, love, love, love à travers l'univers, love, love, love. Et pour que tu te souviennes, love, 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 c'est toi que j'aime.
Ici Benoît Racette avec
Sophie Stanquet.
Et on est bien sûr avec France D'Amour qui aujourd'hui vient à l'émission pour nous faire découvrir son côté santé, son côté bio, j'oserais dire. Mais ça se fait rarement sans un bon médecin, ça. Qu'est-ce que
Oui, absolument. Moi, j'ai un très, très bon médecin de famille, d'ailleurs. Puis je vais le voir souvent. Aussitôt que j'ai une question, je vais le voir.
Bon. Bien, c'est important. Vous êtes une des rares, parce qu'à peu près 20 % de la population qui n'a pas encore son médecin de famille.
Oh, je ne sais pas comment je fais.
Profitez-en.
La liste d'attente est longue et... C'est pas évident.
Voilà. Et donc, c'est pour ça qu'on se retourne devant Dr. Baruel, François Baruel, qui va être souvent avec nous à l'émission, médecin de famille, stomatologue aussi.
Oui.
Alors, je suis inspiré par France aujourd'hui. Moi, j'ai envie de changer drastiquement mon régime. Comment j'adresse ça à mon médecin de famille? Qu'est-ce que je lui dis?
Ouais. Et, docteur, je voudrais quoi? Je voudrais...
Oui.
Quoi faire? Changer de régime, pourquoi?
Ah, c'est la première question, ça.
C'est la première question. Pourquoi vous voulez changer de régime?
Ben, c'est une bonne... Et puis, est-ce que c'est pour être plus beau? C'est
voilà,
ça
que est-ce que c'est pour être plus beau? voilà, non, mais c'est ça la question, moi, aussi. Est-ce qu'il y a aussi des... On a découvert des antécédents, des choses dans la famille qui peuvent être traités ou du moins dont les effets peuvent être annihilés ou diminués par un traitement, par l'alimentation. Ou bien, est-ce parce qu'on a pris... conscience qu'en fait, on mange des choses qui ne sont pas bonnes du tout pour la santé.
Espérons que c'est la prise de conscience. Ça peut être aussi un petit dépliant ramassé dans un mauvais kiosque, mais une chose est sûre, il faut penser à un changement de régime. Et pourquoi on changerait de régime pour le rendre complètement bio? Pourquoi on devrait faire ça?
En fait, parce qu'on absorbe actuellement des choses qui sont vraiment dangereuses. On absorbe principalement... Alors, ce n'est pas tellement la qualité des aliments bio, parce que les aliments bio, rien ne prouve qu'ils sont mieux ou moins bien que les autres. Quand on fait l'étude quantitative, qualitative, enfin, tout ce qu'on veut, des protéines, des sucres, etc., en fait, en gros, c'est toujours la même qualité. Mais la qualité principale, c'est qu'il n'y a pas d'antibiotiques, c'est qu'il n'y a pas de pesticides, c'est qu'il n'y a pas d'hormones, donc il n'y a pas des modificateurs du comportement, il n'y a pas de modificateurs de la stérilisation, enfin de la fertilité. La fertilité pâtit en ce moment énormément.
C'est important, ça. Je vous ai déjà entendu parler de ça. Donc,
la fertilité a baissé énormément, puisque en fait, il y a 20 ans, il y avait un couple sur 10 qui avait besoin des services de fécondation, in vitro, ou en tout cas d'un service de stérilité. Actuellement, c'est un couple sur 4.
Ah oui.
Un couple sur 4.
Alors, donc, il y aurait une cause à effet avec...
Alors, il y a en effet, il y a le bisphénol B, il y a le bisphénol A, et il y a aussi tous les pesticides en général qui sont des œstrogènes-like, qui modifient la composition du sperme. En fait, c'est principalement ça.
Voilà. C'est quand même une grosse nouvelle là, qu'on annonce à l'émission. Mais ben oui. Au-delà de ça, il y a vraiment des avantages très clairs à manger bio pour notre santé. Ça veut dire quoi manger bio? Parce que, évidemment, c'est assez populaire. Là. Comment on décide qu'un aliment est bio? Et je veux juste signaler d'avance qu'il y a une nutritionniste qui vient plus tard pour nous en parler plus amplement. La table.
Mais
du point de vue du médecin, souvent les médecins n'y croient pas, disent que c'est exagéré, certains...
Oui, c'est vrai, on dit toujours, attendez, on raisonne calmement, etc. Mais c'est vrai, quand on réfléchit, quand on lit un petit peu, quand on se documente même, pas besoin d'être médecin, quand on se documente, il est évident que tout ce qu'on absorbe, le bœuf aux hormones, enfin c'est les poulets en batterie qui sont complètement bourrés d'antibiotiques parce qu'ils ont des poux, parce que ceci, parce que cela, vous le mangez, en fait. Ouais. On trouve du DDT dans le lait des maternelles. C'est quand même invraisemblable.
Ah oui, les petits gobelets, les berlingots de lait, on retrouve...
Dans le lait maternel.
Ah, dans le lait maternel.
Maternel.
Excuse, j'ai compris la maternelle.
C'est quand même dingue. c'est quand même dingue. On est rempli de produits.
On ne sait pas.
On est complètement imprégné comme des éponges.
Donc, on se désintoxique quand on mange tranquillement.
Bah, voilà, c'est ça. Okay. Et, mais pour le faire, il faut être sûr que c'est vraiment du bio.
Parce et c'est ça. C'est
et c'est pas facile. Parce qu'en fait, on ne trouve pas forcément... pas énormément de variétés dans les produits bio. Il n'y a pas forcément beaucoup de viande bio.
De plus en plus, quand même.
Ça s'améliore. Ça, c'est... Notamment à Montréal, d'ailleurs. J'ai regardé à Montréal, il y a en effet quelques fermes, mais aussi des livraisons à domicile, c'est intéressant. Mais pour la viande, il n'y a pas encore grand-chose comme bio. Il y a un petit rayon de bio de viande. Il n'y a pas énormément.
Ah ben ça, je sais pas, moi, je fais mon épicerie, puis j'ai accès à tout.
Ah ouais.
À l'épicerie.
L'idéal, ça serait de ne pas être obligé d'aller dans une épicerie spécialisée.
Voilà.
Mais il faudrait aller dans un supermarché et ce serait normal.
C'est le cas de le dire. Il faudrait que ça soit naturel.
Mais oui, il faudrait que ce soit habituel.
Les prix qui sont exorbitants quand on va dans une épicerie spécialisée.
Un poulet bio, c'est deux fois plus cher.
Ah ouais. Mais c'est deux fois plus bon.
C'est pas normal. Mais
C'est vrai que c'est pas bon, mais je suis de cette école-là que c'est pas normal. Ouais. On devrait encourager les gens d'ici, que ça soit au niveau, mais on le voit par exemple pour une framboise, quand arrivent les framboises au Québec, elles sont plus chères que celles qui sont américaines. Alors on devrait faire le contraire.
Puis soyons clairs, ça vient renforcer le fait que quand on est pauvre, on a accès à de la moins bonne bouffe.
Voilà.
Et il faudrait trouver le moyen de démocratiser ça un peu mieux.
C'est pas normal qu'un litre de coke, ça soit moins cher qu'un litre de lait.
Absolument.
C'est épouvantable.
Et donc, pour convaincre les gens encore plus qui nous écoutent, Dr Baruel, qu'est-ce que ça change à très court terme, le bio?
Alors, ça change pas grand-chose, en fait. Mais ce qu'il y a de certain, c'est que il y a eu des expériences qui ont été faites, notamment pendant un mois avec une famille entière. Le bio permet de supprimer le soda. Le soda, avec tout ce que ça comporte et tous les acides et tous les produits qu'il y a, c'est pas bon, c'est pas bon du tout. Donc ça a amélioré notamment des reflux gastriques, ça a amélioré ça a fait maigrir les gens. Pendant un mois, ils ont perdu 10 livres chacun, les parents. Ils se sont sentis plus toniques, plus en forme, parce qu'ils ont perdu du poids en fait. C'est à long terme. Quand on commence à supprimer tous ces pesticides et tous les produits qu'on a absorbés, là, on commence d'abord à se sentir un peu mieux, certain, c'est probable, mais surtout, on capitalise sur l'absence de maladies futures. C'est surtout ça, en fait. C'est qu'on va éviter des maladies à l'avenir.
Et donc, c'est ça, c'est pour la personne. Mais qu'en est-il de notre écosystème? Qu'en est-il de tout le reste? On a des bienfaits pour longtemps avec le bio.
Oh ben avec le bio, bien sûr, parce que c'est indispensable. Bien sûr qu'on a des bienfaits.
Bon, ben on va continuer d'en parler. Moi, je vous propose une capsule d'information à la suite sur les déserts alimentaires. Vous connaissez, déserts alimentaires?
Oui.
OK, ben on va en apprendre plus dans quelques instants.
Amène-moi une allumette, je n'ai plus de feu.
Est-ce que vous habitez un désert? En fait, on parle ici d'un désert alimentaire. C'est un phénomène souvent urbain, mais pas seulement. Les déserts alimentaires sont ces aires de notre territoire habitable qui sont situées à plus de 1,6 km d'un approvisionnement en aliments frais. Donc, en gros, si vous êtes seul et que vous n'avez pas de défi de mobilité, là, que vous marchez à 5 km par heure, vous ne pouvez pas vous rendre à une épicerie qui aurait des aliments frais en moins de 15 minutes. C'est ça, 1,6 km. Bon, si vous avez des enfants, des gros paquets, imaginez, ça devient encore plus compliqué. Autre aspect du désert alimentaire, ce sont aussi des territoires qui ne sont pas desservis par des moyens de transport collectifs. Nous qui pensions que l'alimentation, ça se résumait à des fruits et des légumes, non, c'est aussi un métro. Les déserts alimentaires sont présents partout et souvent dans les grandes villes, que ce soit Montréal, Vancouver, Mississauga, mais c'est parfois pire hors des grands centres, hors des grandes villes, parce que évidemment il n'y a pas de transport en commun et très souvent on est condamné à s'approvisionner au village, au dépanneur du village. Et avouons-le, c'est bien plus souvent riche en croustilles et en conserves. Pourquoi on se questionne donc sur la présence d'aliments frais? C'est parce qu'il y a des avantages certains à consommer des aliments frais. Référons-nous au portail Passeport Santé qui nous rappelle, et je cite, « La fraîcheur, c'est une question de goût, mais aussi de valeur nutritive. De manière générale, plus un aliment est frais, plus sa valeur nutritive est élevée, et la teneur en vitamines et minéraux des fruits et les légumes commence à diminuer dès la récolte. Donc, ces nutriments sont particulièrement sensibles à la lumière, à l'oxygène, à la chaleur et bien sûr au procédé de transformation. » Fin de la citation sur Passeport Santé. Vous pouvez d'ailleurs aller voir sous l'onglet « Aliments frais ». Vous comprenez bien que dès qu'on sort les aliments de la terre, le compte à rebours commence. Donc, pour irriguer notre santé, ça prend toutes sortes de moyens collectifs et pour évidemment, empêcher ces déserts alimentaires, on peut soit développer des marchés publics, même temporaires, pendant l'été. On peut faire des groupes d'achat avec les producteurs locaux et même des produits en serre parfois. Ou on peut faire, comme de plus en plus de villes canadiennes, inviter les dépanneurs et commerces qui sont déjà là en place à offrir au moins des aliments frais à leurs clients. Si vous n'avez pas seulement soif d'aliments, je vous invite à en savoir plus. Si vous avez soif de savoir, sachez que les références accessibles pour les personnes aveugles, par exemple, sont très rares, mais les références en français sont certainement les meilleures à l'adresse de la Direction de la santé publique de Montréal. Un répertoire s'y trouve, plusieurs articles y sont. Vous pouvez chercher là, sur Google, c'est plus facile, Direction de la santé publique. On continue évidemment avec notre lutte pour le bio. Et là maintenant, vous savez, vous n'avez pas seulement du bio à manger, vous avez des déserts à irriguer.
Alors, on poursuit tout de suite l'émission sur le prochain sujet. On continue d'ailleurs sur les déserts alimentaires. Et c'est toi, Benoît, qui va t'entretenir avec une personne qui est vraiment très, très impliquée, même politiquement.
En plus,
c'est Caroline Poirier, présidente de la coopérative pour l'agriculture de proximité écologique, le CAPÉ.
Bonjour, Caroline.
Bonjour.
Bonjour, très content que vous soyez avec nous, puisque cette coopérative pour laquelle vous êtes présidente, est très neuve. Hein? C'est quoi l'agriculture de proximité écologique d'abord?
Mais en fait, nous, on fait la promotion de l'agriculture biologique certifiée.
Oui.
On a choisi le nom écologique parce qu'on souhaitait être inclusif de toutes les entreprises qui seraient en démarche de certification vers le biologique.
Mm-hmm.
Donc voilà, nous, on fait la promotion du bio. Puis l'agriculture de proximité, c'est une agriculture qui rapproche les consommateurs et les mangeurs et les producteurs, donc qui comporte le moins possible d'intermédiaires entre les deux. Donc, c'est une alternative là, aux chaînes longues de distribution alimentaire là, que sont, par exemple, les supermarchés.
Mm-hmm.
Puis, quand on pense à l'agriculture de proximité, on pense au marché public, au panier bio, au marché de solidarité, par exemple.
Il y a quand même une offre là, qui devient de plus en plus importante. Hein? C'était pas facile avant d'avoir du biologique, mais vous travaillez fort aussi pour que les producteurs d'ici, hein, parce qu'on reste local, donc les producteurs ici puissent accéder plus facilement à cette distribution et cette certification.
Oui, on a plusieurs services à la CAPE qu'on offre à nos membres producteurs et productrices,
mm-hmm.
entre autres la mise en marché coopérative sous le nom « Les biolocaux ».
Okay.
Donc c'est une offre de mise en marché là, qu'on veut vraiment complémentaire à ce que nos membres font déjà. Donc, les principaux canaux qu'on exploite sont ceux qui sont difficiles à utiliser là, pour des petites entreprises,
oui.
Chacune de leur côté.
Marché Jean Talon, par exemple.
Par exemple, donc au marché Jean Talon ainsi qu'au marché Atwater, on a des kiosques, des biolocaux là, de mise en marché coopérative.
Mm-hmm.
Puis on fait également des paniers d'hiver là, sur Montréal et la Rive-Sud jusqu'en mai.
Mm-hmm.
En fait, on a réalisé avec les années là, qu'il y a de plus en plus de fermes qui offrent des paniers bio d'été, mais au niveau de la saison hivernale, là, ça devenait extrêmement difficile pour les gens de continuer à s'approvisionner et à manger bio et local. Donc la coopérative prend la relève de ses membres pendant la saison là, de novembre à mai pour offrir des paniers en formule mini-marché, donc qui offrent une grande flexibilité pour les gens, puis qui mettent en commun des produits là, de près d'une trentaine d'entreprises membres de la CAPE.
Trentaine, c'est excellent. Il y a eu en studio une espèce de soupir de soulagement. On est avec France d'Amour, entre autres, qui s'approvisionne souvent en bio.
Ah, toujours. Je ne mange que bio. Ça m'enchante tout à fait de vous entendre parce que je parlais justement que je voulais passer maintenant à l'étape justement plus locale et peut-être avoir des paniers.
L'hiver.
Même l'hiver, oui, là, je trouve ça très intéressant, franchement. Là.
Bon, ben vous avez déjà quelqu'un qui veut retrouver bio locaux.
en fait, comment moi, ma question, ce serait comment on fait pour vous rejoindre? J'imagine qu'il y a un site Internet, quelque chose comme ça.
Oui, en fait, allez-y, il est possible sur cap.coop, mais vous avez aussi plusieurs manières où on peut vous rencontrer, n'est-ce pas, Carole Poirier?
Oui, en fait, le principal site Internet pour avoir l'information sur les paniers d'hiver, c'est le biolocaux.coop.
Aha.
Puis, on est également membre du réseau des fermiers de famille d'équipaires. Donc, si vous préférez passer par le réseau avec panierbio.org, vous avez aussi la carte des points de livraison. Puis, je vous dirais, la majorité là, des points de livraison de paniers d'hiver à Montréal sont offerts par les biolocaux et la CAPE.
Bon, puis il y a une alliance un peu naturelle entre vous et équitaires,
Oui,
c'est vrai,
tout à fait,
hein?
Parce que en fait, le réseau des fermiers de famille a été fondé il y a maintenant 20 ans.
Mm.
Puis les membres fondateurs et les membres fondatrices de la CAPE sont pour la très grande majorité des fermes qui font partie du réseau des fermiers de famille d'équitaires.
Mm.
Donc le réseau des fermiers de famille est comme une agence de rencontre, si on veut, là, qui fait la promotion des paniers bio au Québec et qui leur donne une vitrine sur Internet qui permet aux consommateurs de trouver leur fermier, fermière de famille. Puis ensuite, la transaction est vraiment prise en charge par la ferme une fois là, que le match est fait, si on veut, entre le mangeur et le producteur. Puis, nos membres fondateurs sont en grande partie des fermes qui font partie du réseau. Les biolocaux, comme producteurs de paniers bio, font également partie du réseau. Donc, on fait partie de la même famille, là.
Moi, j'aurais une question. Est-ce que c'est seulement des végétaux, fruits et légumes ou il y a de la viande, des œufs?
Depuis cette année, les biolocaux ont élargi leur offre alimentaire. Puis maintenant, c'est également possible là, d'ajouter à son panier. Donc, le panier de légumes, c'est comme la commande de base.
Mm-hmm.
Puis une fois qu'on est abonné au panier de légumes, on peut également ajouter du pain bio local là, fabriqué par un artisan. On a la viande, on a les œufs, les farines, les grains, les huiles.
Ah oui. Quand même.
Donc, on est
ça fait seulement 5 ans que vous existez.
L'offre de produits.
Et au niveau de est-ce que c'est Montréal et les environs, Rive-Sud et tout ça, ou pour l'instant c'est juste Montréal?
En ce moment, donc pour l'instant, on a une trentaine de points de livraison. La majorité sont sur l'île de Montréal, mais on en a également sur la rive sud. Puis on n'est pas encore rendu sur la rive nord, mais ce sera dans les prochaines étapes.
Très bien. C'est une bonne nouvelle.
Comment
ça
peut vous aider?
Bonne nouvelle, oui.
Oui.
Ah oui.
Ça, c'est oui, vraiment.
C'est très, très bonne nouvelle.
Parce que tu sais, des œufs, là, ouais, du Québec bio, là, bonne chance. Mm-hmm. Ça te vient tout de l'Ontario. Oui. Très difficile de trouver des œufs du Québec bio.
Vous avez un producteur, vous avez plusieurs producteurs d'œufs biologiques dans votre gang?
Ben, en fait, même pour nous, là, c'est un défi là, d'offrir des œufs bio locaux produits par des petites entreprises.
En France, elle a couru beaucoup, France,
ben, moi,
à travers
je mange,
les
ça fait 15 ans,
les
magasins. Moi, je mange des œufs tous les matins.
Elle a trouvé qu'il y avait une problématique
là-dessus. Il y a vraiment une problématique.
J'ai
déjà fait un Facebook là-dessus. Écoute, c'est très
les
difficile.
Bio, c'est dur.
Toujours, ça vient toujours de l'Ontario.
C'est
donc,
vrai?
Je suis frustrée, oui.
Alors, les vôtres, ils viennent de Montréal, du Québec?
Oui, pas de Montréal.
Pas de Montréal, mais
Québec,
on peut avoir des poules aussi à Montréal, mais bon.
En fait, la difficulté à trouver des œufs bio et locaux sur les marchés provient entre autres, là, c'est une problématique qui relève de la gestion de l'offre. En fait, les œufs, c'est une production sous contingent. Donc en ce moment, si on ne possède pas de droit de produire, donc de quota de production pour les œufs au Québec, on est limité à 100 poules pondeuses. Puis 100 poules pondeuses, ben ça fait à peu près 90 œufs par jour.
Ah,
donc,
oui,
c'est pas énorme. Ça permet pas de desservir beaucoup de clients. Puis, ça fait partie aussi des services qui sont offerts par l'AKP de représenter ces producteurs. Puis, on essaie d'ouvrir les possibilités là, pour que les petites entreprises aient la possibilité de diversifier leur production puis d'offrir des œufs bio et locaux à leurs clients.
Je peux vous poser la question. Le grand syndicat là, des agriculteurs, l'UPA, à quel point il est ouvert à ce type d'agriculture-là?
Ben c'est certain que je pense que c'est encore considéré comme plutôt marginal. Par contre, il faut savoir aussi que c'est quelque chose qui est très populaire auprès de la relève agricole, l'agriculture bio de proximité. Donc, je pense que ça force un petit peu l'Union des producteurs agricoles à nous considérer puis à suivre la vague.
Oui.
Je pense que on ouvre tranquillement des portes à l'AKP, là, à l'UPA pour faire reconnaître nos modes de production puis nos entreprises.
Mm-hmm.
Mais on a également beaucoup de beaux succès là, parmi nos membres. Si on pense par exemple à la ferme aux petits oignons qui vient de remporter le prix là, des jeunes agriculteurs d'élite du Canada.
Mm-hmm.
Donc, c'est pas rien. Puis je pense que toutes les activités de représentation que l'AKP fait, les succès que nos membres remportent, contribuent à faire reconnaître notre type d'agriculture, mais c'est pas naturel encore. Puis on représente des entreprises qui sont de taille quand même modeste, si on veut, ce qui en fait leur force, puis ce qui en fait aussi une des raisons pour lesquelles ils sont en demande auprès du public. Mais c'est sûr que si on ramène ça en termes de pourcentage du chiffre d'affaires agricole québécois, c'est encore marginal, mais je pense que ça a vraiment le vent dans les voiles.
Moi, j'ai une question pratique au niveau de comment ça fonctionne. Je vous écoute, j'habite dans le quartier et bon, j'ai rien du tout. C'est vraiment le désert alimentaire et puis j'ai envie de bien m'alimenter. Est-ce que je dois être membre? Ça coûte combien? Comment? C'est une fois par mois que je vous contacte. Comment ça fonctionne au juste le côté pratique?
Oui. En fait, avec les biolocaux, vous allez aller sur notre site internet biolocaux.coop, puis vous allez pouvoir magasiner, si on veut, le point de livraison qui sera le plus près de chez vous. Ensuite, on a deux formats de panier, donc le petit, le gros panier, puis les deux seront livrés à chaque deux semaines près de chez vous. Puis l'abonnement, dans le fond, court là, à partir de novembre, puis on prend des inscriptions là, tout au long de la saison jusqu'à la fin de la saison des paniers d'hiver qui va se terminer au début mai. Donc, c'est un engagement qu'on prend quand on choisit on peut s'abonner pour un panier d'essai, mais quand on s'abonne ensuite pour la saison, ben on va recevoir son panier à chaque deux semaines dans le point de livraison qu'on a choisi.
Mmh.
C'est des paniers qui sont maintenant livrés en mode mini-marché, donc c'est presque, c'est pas zéro déchet, mais presque, là, très peu emballés. Les gens vont avoir un choix de légumes sur place, puis se bâtir un petit peu un panier d'un poids déterminé. Vont utiliser la balance qui va être mise à leur disposition, faire le choix de leurs légumes pour arriver au poids suggéré.
Donc,
ça leur permet de consommer aussi ce qui est le plus populaire dans leur foyer.
Parfait, tout est là. Proximité biologique, la possibilité d'aider des petits fermiers à échelle humaine, fermières, fermiers à échelle humaine. Merci beaucoup. D'ailleurs, rappelons que vous êtes vous-même fermière. Votre entreprise, en fait, votre production agricole?
Oui, je suis propriétaire avec mon conjoint de la ferme Croque Saison.
Aha.
On est situé, nous, en Estrie, puis on fait notre mise en marché dans la grande région de Sherbrooke.
Bon, ben, on va aller vous trouver à Sherbrooke. C'est certain qu'on va avoir envie de faire le chemin. Carole Poirier, vous êtes présidente de la coopérative pour l'agriculture de proximité écologique, la CAPÉ. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Assise au bord de la fenêtre, je vois nos dépures naître et des questions qui se dessinent. Comment la vie nous prédestine? Car s'il a fait plus ce soir-là, je serais sûrement restée chez moi. Alors qu'en aurait-il été si nous nous étions manqués? Oh, oh. Et si le jazz et ses standards ne jouaient pas les mercredis soirs, nous serions nous rencontrés à l'opéra ou au musée. Dans un message, un peu d'espoir, un jour peut-être te revoir. Et si les mots n'existaient pas, on retourne marcher ce jour-là. Ah, ah. Chaque seconde, aurions-nous vécu des bonheurs teintés de pire et de meilleur? Si nos passés et nos blessures disparaissaient avec l'usure, nous saurions nous séparer et nous saurions nous retrouver.
C'est aussi bon pour votre santé. Dites-nous en plus sur Facebook en visitant la page Canal M, la radio de Vuzévoix, ou en repérant @canal_M sur Twitter.
Vous êtes avec Benoît Racette.
Et Sophie Stanquet.
Parce que c'est bon pour la santé et c'est encore mieux quand c'est avec France d'Amour.
Hey!
France d'Amour, elle a le bio dans la peau.
Ah, mais vraiment.
Oui. Voilà.
Vraiment. Puis elle est vraiment passionnée. Hein.
Ben, c'est vrai.
Elle veut tout savoir. Elle veut se faire livrer des paniers.
Non, mais je mange les animaux, mais je les respecte quand même.
C'est ça. Elle a pas aimé que je les pose, mais c'est parce que tout le monde lui demandait. Tout le monde lui demandait si elle était végétarienne. Puis c'est vrai que vous avez une tête de végétarienne.
Oui, j'ai une tête de carotte.
Mais on va plus loin que la tête là, cette fois-ci. On ose même parler, attention, de cosmétiques bio.
On est rendu là
parce que la crème, tout à l'heure on a vu la crème que nous présentait France, et puis là on va aller avec le maquillage, puis ça on aime ça, puis encore là on prend tout le temps du temps avant de choisir notre maquillage, puis peut-être qu'on regarde pas suffisamment les étiquettes.
Ah mon Dieu, oui. L'éthique dans la cosmétologie, c'est triste.
Oui, c'est vraiment... Et puis, c'est toujours, si on va dans les lieux communs des pharmacies, vous avez-vous remarqué, mesdames, messieurs, qu'il n'y a jamais rien d'écrit derrière? Et non seulement il n'y a jamais rien d'écrit derrière, mais il n'y a jamais de miroir. Oh, on ne veut jamais se voir. Donc on prend ça,
là,
on essaye ça.
Vous me donnez envie de me maquiller là, alors, pour comprendre ce monde.
Alors, elle est avec nous, elle est spécialiste. Hélène, on a vu France, sans doute que France, vous l'avez croisée sur un plateau de tournage parce qu'elle fait énormément de télévision, grande vedette et tout. Elle est charmante et surtout, elle a beaucoup d'intérêt pour le maquillage bio. C'est Chantal Goyette, spécialiste de cosmétiques biologiques. Et elle va être avec nous de temps en temps à l'émission pour notre plus grand plaisir. Bonjour Chantal.
Bonjour.
Ça va bien?
Ça va très bien, merci. Et vous?
Oui. Alors, je disais que bon, le maquillage bio, ça veut dire quoi exactement? Est-ce que c'est galvaudé? Est-ce qu'on dit bio parce que c'est fait chez nous? Est-ce que c'est facile à trouver du maquillage bio?
Bien, de plus en plus, ça devient de plus en plus facile. J'avoue qu'au avant, c'est un peu plus difficile. Les cosmétiques qu'on appelle cosmétiques classiques, qui étaient faits avec, je m'amuse à dire, des produits un petit peu plus chimiques peut-être, c'est-à-dire des ingrédients qui ne sont pas toujours bons pour la peau, de l'aluminium ou de l'huile minérale quelquefois.
Parabènes,
ouais. Oui. L'huile minérale, des fois, qui obstrue les pores de peau. Donc, là, on se demande pourquoi qu'on a des petits boutons, des petites papules qui apparaissent sur la peau. Par la suite, certains laboratoires cosmétiques se sont un petit peu améliorés et ont décidé de faire de la dermo cosmétiques qu'on appelle. Donc, c'est une combinaison de produits, des ingrédients que j'appelle scientifiques, donc des sphères d'acide hyaluronique. L'acide hyaluronique, on retrouve ça dans la peau, donc ils utilisent ça comme hydratant. On peut aussi utiliser du maxillip. Vous savez, les produits qu'on met dans les rouges à lèvres pour repulper tout ça. Donc, souvent, les compagnies qui appellent de produits de maquillage qui font de la dermocosmétique utilisent un combiné de produits naturels et scientifiques.
Okay.
Donc, bon, ils essaient de faire de la création avec la couleur et de la protection pour notre peau. Par contre, maintenant, bien, les laboratoires sont de plus en plus conscients au bio. Donc, ce qui est important à savoir, les produits de maquillage ont le même cahier de charges que les crèmes, que les onguents. Donc, il faut qu'il y ait un certain pourcentage de produits biologiques, comme on fait avec la crème aussi.
Alors, avant qu'on... Parce que bon, y a beaucoup de cosmétiques, comme on dit,
ouais.
Et c'est écrit biologique. Puis quand on regarde en arrière, il y a un pourcentage. Moi, je regarde, je vais chercher ma petite loupe, là, puis il y a un petit pourcentage qui me dit seulement que c'est biologique, là. Ils sont en train de me faire avoir, là.
Ouais, ça, là, faut faire
pourcentage,
attention.
Mais ils mettent bio, en gros. Mais je regarde le pourcentage minéral, des minéraux. Ça va, mais... Comment on fait pour s'en sortir?
Bien, vous avez la fameuse liste INCI. Vous savez, la liste d'ingrédients et matières premières qu'on voit sur la boîte ou les contenants. Mm-hmm. Donc, cette feuille-là, c'est la nomenclature internationale des ingrédients cosmétiques. Donc, là-dessus, vous pouvez vraiment voir les ingrédients qu'il y a dessus. Une gamme maquillage qu'on appelle bio doit avoir 95% des ingrédients naturels ou d'origine naturelle, mm-hmm. 95% des ingrédients végétaux issus de l'agriculture biologique aussi, et un 10% que l'ensemble des ingrédients issus de l'agriculture biologique aussi. Il y a des compagnies, là, vous avez Dr. Hoshka, sont vraiment formidables parce qu'ils ont fait, suite à leurs 50 ans de produits de soins pour le visage bio, ont fait une gamme de maquillage bio et eux ont leur propre jardin. C'est
ça,
en Allemagne. Par contre, on aimerait bien dire que c'est ici.
On peut faire des
reportages.
Mais ils n'ont pas les certifications. Hein. C'est pas certifié.
Oui, c'est certifié. Cosmébio, EcoCert, oui.
Alors, le
docteur Hoshka. Docteur Hoshka,
qu'on peut marquer sur leur bouteille.
Bon,
okay. Sur leur maquillage, en tout cas.
Ça vient de sortir.
Ah, c'est nouveau,
oui, c'est tout nouveau au Canada. C'est arrivé ici à l'automne dernier.
Okay. Mais si jamais on ne veut pas prendre l'avion pour aller
avoir
plein de maquillage,
dans les pharmacies,
parfait. Alors, on ne prend pas l'avion, on s'en va ici à notre pharmacie du coin, on en a.
Oui, on en a.
Et qu'est-ce qu'on a d'autre aussi qu'on peut trouver dans notre gamme du Québec?
Du Québec, on a Zora Biocosmétique, qui ont certains produits de maquillage. Ils n'ont pas l'ensemble au complet de maquillage, mais il y en a certains, quelques-uns qui sont bio. Donc, pas l'ensemble.
Certains, ça veut dire des couleurs?
Certains produits maquillage. Okay. Certains produits maquillage.
Une question, parce que je suis une amoureuse des animaux.
Oui.
Est-ce qu'on les teste sur les animaux, ça?
Non. Non, 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 il ne faut pas. Par contre, on va être honnête. Malheureusement, il y en a qui étaient sur les animaux. Ça ne devrait plus être fait. On ne peut pas oser, oser ça. Mais c'est pour ça que c'est vraiment important de regarder peut-être l'historique des compagnies de maquillage. Et c'est quand même nouveau sur le marché.
Dans votre métier, je vais dans un plan plus personnel, mais qui nous intéresse tous autour de la table. Comment ça se travaille comme maquilleuse avec du maquillage bio? Est-ce que ça se travaille bien?
Le maquillage bio se travaille aussi bien, oui, en plus d'être bon pour la santé, pour la peau, pour notre santé, que le maquillage régulier.
C'est bon pour la santé.
Oui, c'est ça. Mais ça travaille très bien. Les tenues sont super bonnes. Les couleurs, les pigments viennent de sources naturelles. Ce qui est important souvent, c'est la concentration de pigments de couleur dans ton produit. Plus que tu as une concentration qui est forte, donc un 18% peut-être de pigments de couleur, plus que ta tenue va être bonne aussi sur la peau. Donc, c'est ce qu'il faut regarder aussi. Puis, on évite des produits moins bons pour la peau, comme les silicones, qui est un glissant. Mm-hmm. Donc, la tenue n'est pas bonne. Ça l'obstrue les pores de peau encore. Donc, il faut vraiment prendre la peine de regarder les produits. Puis, tout sur Internet, tout est facile.
Et toujours un mythe, est-ce que ça dure aussi longtemps que le maquillage traditionnel?
Oui, parce qu'on est habitué qu'on pense que c'est seulement le parabène qui garde les produits longtemps, mais on met un gros X là-dessus. Mm. Mais il y a des très bons produits bio, naturels, qui gardent la peau, qui se conserve longtemps.
Merci beaucoup, Chantal.
Plaisir.
Merci.
Merci.
C'est bon pour la santé, un magazine animé par Sophie Stanquet et Benoît Rassette.
Et aujourd'hui, on est en studio France d'Amour qui nous fait le plaisir de casser l'émission, comme on dit dans le jargon.
Ça fait tellement plaisir.
Métier, c'est notre première. Alors aujourd'hui, on parle beaucoup de bio. On va, mesdames, messieurs, toujours avec l'invité. Et c'est vraiment elle qui nous inspire tout le long de l'émission. Et on couvre le maximum. On a parlé des déserts alimentaires. On va parler tout à l'heure de nutrition. Chantal nous a parlé aussi du maquillage. Et là, moi, je reviens sur la crème solaire, sur le point vraiment tournant de votre vie au niveau de la santé, France. Parce que j'aimerais que les gens connaissent la différence entre une crème solaire traditionnelle et une crème bio. Si moi, je vais au magasin et j'achète une crème traditionnelle, qu'est-ce que j'y retrouve?
Écoutez, moi, je ne suis pas une professionnelle dans la crème solaire, mais je sais que les crèmes plus chimiques, commerciales, il paraît que la technologie, c'est comme nano et ça rentre dans la peau, puis ça va dans nos organes. Alors que la crème bio, la particule est plus grosse, donc elle reste en surface, là, quand on parle des crèmes solaires minérales. Et donc, ça reste en surface. C'est sûr que ça, c'est pas très, très joli. Quand je mets ma crème solaire, là, j'ai souvent l'air d'un vampire. mais je me remaquille par-dessus. Mais alors, ça protège vraiment du soleil, mais au moins, ça ne rentre pas dans le... Il y a toujours une partie qui rentre quand
on
même.
On va y aller d'abord pour l'indice. C'est important parce que je pense que les gens qui nous écoutent... Moi, avant d'avoir interviewé un dermatologue, je ne savais pas qu'à 15, à 10, ça ne servait à rien.
Ah oui.
Et ça, c'est vraiment important. Et puis, je le dis autour de moi parce que les gens vont s'acheter de la 15... Puis ils se disent « Ah, mais c'est correct parce que le soleil est bon et tout ça. » Et mesdames, messieurs, il y a un médecin qui est là pour confirmer, l'indice 15 ne vous protège pas.
Mmh, c'est important.
Alors,
de
c'est
dire.
Le minimum, c'est le 30. Vous commencez par le 30. Mmh. Au niveau des crèmes traditionnelles, bah, il y a vraiment, c'est du pétrochimie. Il y a des produits qui sont chimiques là-dedans, des perturbateurs endocriniens. Et aussi, c'est très nocif pour la santé et aussi l'environnement. Parce que vous imaginez que vous mettez de cette crème... Il y a plein de produits chimiques et tout de suite après, vous allez dans votre piscine, c'est correct, ça endommage personne d'autre que vous.
Ouais.
Mais si vous allez à la mer, passez la journée là,
ouais.
Vous emmenez ces produits chimiques sur votre peau, mais vous détruisez l'écosystème.
Mais je suis content
alors
que
ça...
tu l'ajoutes parce que tous ces choix-là, on ne les fait pas seulement pour soi, hein, France?
C'est ça.
Tout à fait. C'est qu'on est dans un écosystème, puis la surutilisation de produits... dangereux comme ceux-là, ben, ça finit par avoir un impact.
Alors, il y a, des conservateurs de synthèse là-dedans, dans ces crèmes-là. Et donc, c'est mauvais pour l'environnement, c'est mauvais pour vous. Et puis, pourquoi prendre une crème qui, éventuellement, peut-être, pourrait vous donner un cancer? On veut se protéger du cancer. Et là, on ne sait pas, il y a des études qui ont été faites. Elles sont pas, c'est pas des chiffres qui sont énormes. Mais qu'est-ce que c'est de mettre ces produits chimiques à longueur de journée? Et en plus, quand vous mettez votre crème traditionnelle, c'est pas tout de suite que ça fait effet. Et ça c'est encore comme mon pourcentage tout à l'heure. Les gens pensent qu'à partir du moment où je mets une crème solaire traditionnelle, ça y est, c'est instantané. Eh ben non, c'est 30 minutes plus tard.
Ah ouais.
30 ouais. minutes plus tard, contrairement
au... Donc, en même temps qu'on fait le lunch avec les enfants, il faut les crémer.
Il faut rester à l'intérieur de la maison.
C'est ça,
si on prend la traditionnelle, j'ai l'impression qu'on est au restaurant Zadubel, la traditionnelle.
Oui, c'est ça, mais tout à fait. Mais
alors,
d'autre part, ça ne dure pas très longtemps.
Oui, ben, en fait,
c'est ça.
Docteur Baruel est avec
d'autre
nous
part,
aussi.
D'autre part, ça ne dure pas très longtemps, l'effet.
Non, c'est ça. Hein. C'est,
dire
est-ce que vous avez le pourcentage? Je pense que c'est une minute par...
Non, je ne connais pas le pourcentage, mais je sais qu'en fait, il faut les renouveler toutes les heures ou quelque chose comme ça.
Voilà.
C'est très fréquemment à renouveler. Et du coup, ben, ça pollue d'autant plus si on va se baigner.
Exactement. Et ça ne dure pas longtemps.
Non.
Alors ça, c'est encore quelque chose que ma copine me disait, une amie qui était venue avec moi, elle dit « Ah, ça, j'en ai mis. » Je dis « Attends, là, on s'en fait faire de l'avoir, là.
Bah,
ta petite crème que tu t'es mise le matin, là, il faut que tu t'en remettes encore, parce que
sinon
tu vas être d'abord rouge comme un homard, puis bonjour le cancer.
Ouais. »
Alors, donc, et bio, donc, ce qu'il y a de bien, il n'y a que du bien, finalement, dans le bio. Il y a pas de...
Sauf le prix. Mais ça, c'est à travailler.
Ça, c'est à travailler.
OK, pardon.
Non,
mais je ne parlais pas des cosmétiques, là, ou des crèmes solaires.
Il y a encore.
Il n'y a pas de molécules de synthèse. C'est fait avec des minéraux. Et puis, on met du dioxyde... de titane, hein, c'est ça exactement, et l'oxyde de zinc. Alors ça, c'est la blancheur dont vous parliez tout à l'heure.
Et mais là, j'ai trouvé une crème qui a un petit, est comme beige, c'est moins pire, j'ai de l'air moins bleu, mais ça reste que c'est quand même, on est blanc.
On est blanc et c'est fait avec de l'huile de coco, jojoba, donc il y a des bonnes choses là-dessus. Et surtout, c'est que l'effet, France, hein, c'est automatique, ça prend pas 30 minutes.
Ah non, mais c'est automatique, là, tu le vois de toute façon, là, c'est visible. Il faut passer par-dessus ça. Moi, à cause de mes kératoses, mon carcinome, je m'en fous. Je mets ma crème, puis je dis, ben là, quand j'arrive à un endroit, je suis désolée, c'est ma crème solaire. J'ai de l'air de ça. Donc, les gens, de toute façon, maintenant, on se promène de plus en plus de gens avec les ombrelles, la casquette, la crème solaire. Les gens le savent maintenant. On le voyait avant plus sur le nez. On voyait les gens avec la bande blanche sur le nez. Mais là, on va voir de plus en plus de gens avec le visage couvert. Mais que voulez-vous?
France, le risque, c'est quand même la sommation de toutes les brûlures qu'on a eues qui est dangereuse et qui est cancérigène.
Ouais, je sais, mais il n'y a jamais trop tard pour bien faire.
Bien sûr. C'est pour ça qu'il faut le faire le plus tôt possible.
Bah oui. Tout à fait.
Alors moi, j'ai une question médicale, justement. France parlait de ça, puis il y a plusieurs personnes qui qui ont été élevées en se disant ben je mets pas de crème, est-ce qu'on est à risque, est-ce que c'est si on fait bien on se met de la crème maintenant ça va, comment ça fonctionne,
on diminue les risques si on se met de la crème maintenant bien sûr, mais il y a des gens qui sont plus à risque que d'autres, comme France elle est à risque, c'est évident,
les peaux.
Elle est gravement à risque, mais si
toujours
on est brun,
les peaux pâles qui sont plus à risque,
ce sont toutes les peaux pâles, toutes les peaux pâles, les roux sont évidemment beaucoup plus sensibles,
votre rousseur rousseur
lumineuse
toujours, et est-ce que ça a un rapport aussi avec les yeux, on m'a dit que les yeux bleus peau plus pâle.
Non, c'est la peau, parce que les yeux, ce sont des gènes différents. Donc, de toute façon, c'est.
Mais on disait que quelqu'un, yeux bleus, peau blanche, c'est fini.
Oui, parce qu'on on assimile yeux bleus, nord, donc peau blanche, etc.
Alors, plusieurs marques, dont celle de France, absolument.
Ben moi, j'ai pas de.
Mais en fait, la crème.
Non, la crème solaire, moi, j'ai pas.
Elle est pas là.
Non, moi, j'ai pas. Malheureusement, puis j'ai demandé justement au laboratoire. J'ai dit, il faudrait faire une crème solaire. C'est parce qu'il paraît qu'il y a une nouvelle technologie qui s'en vient.
Est-ce que ça pourrait venir dans les cartons?
Dans les prochaines années, c'est sûr. Mais pour l'instant, je prends la crème druide où il y a une crème aussi. En tout cas, je ne me rappelle plus de la marque. Là.
Alors, il y a druide, il y a aussi Lisoitier qui en fait une. Et puis, si on va au docteur.
Lisoitier bio,
oui,
non.
Oui, on m'a dit, oui, tout à fait. On m'a dit qu'elle avait sorti quelque chose de bio. Et docteur Renaud? Aussi.
Ok.
Alors, donc, à vérifier, mesdames, messieurs, toujours. N'ayez plus peur, c'est sûr que ça coûte un petit peu plus cher, mais on m'a dit que ça durait plus longtemps. Est-ce que c'est vrai qu'une crème bio, ça dure un petit peu plus longtemps qu'on en met.
Il n'y a pas d'unanimité autour
de
la table.
Je ne sais pas. Moi, je prends la crème bio, puis ça fait mon affaire, mais. Et puis,
ça dure longtemps.
Moi, je trouve que ça dure assez longtemps.
Mais c'est ce qu'on m'a dit.
Franchement.
On m'a dit que ça durait longtemps.
Puis, côté anecdote, je parlerai de mon dermatologue qui ne va jamais dehors et qui a comme 80 ans, qui a une peau, qui a aucune tache brune, rien, une peau impeccable. Et c'est sûr que c'est un dermatologue.
Ouais.
Mais je lui ai demandé son secret, puis il m'a dit qu'il ne va jamais au soleil. Alors là, je sais pas. C'est quand même bon pour la santé. C'est quand même bon pour la santé.
C'est un petit peu triste. C'est un petit peu triste.
Ben, disons qu'en ce moment, c'est la période pour ne pas être au soleil. Alors temporairement, on va l'accepter. On va l'accepter.
On va
l'accepter.
On va
l'accepter.
Alors, le bio, ça fait jaser et toutes ces déclinaisons ont été heureuses aujourd'hui. Il manque, évidemment, la plus importante, celle qui nous accompagne tous les jours, la nutrition, cette espèce d'énergie fondamentale qui fait qu'on est là pour parler avec France d'amour. Oublions pas que c'est bon pour la santé, c'est animé par moi et Sophie Stanquet et toujours une merveilleuse inspiration, une invitée. Aujourd'hui, c'est France d'amour. Et on a aussi une nouvelle chroniqueuse qu'on aimerait bien vous présenter, Claudine Larivière, qui est nutritionniste et spécialiste en productivité humaine.
Oui.
C'est intriguant, ça. J'ai envie de commencer par ça.
Ah ouais, ça fait parler de ce titre-là. En fait, je l'ai inventé parce que ça, il n'y en avait pas. Je suis stratège en productivité humaine, c'est-à-dire que je travaille avec les entreprises, avec les individus aussi, des entrepreneurs, des exécutifs, des athlètes de haut niveau. Et je les aide vraiment à atteindre leur plein potentiel par la santé et la nutrition.
Mmh.
Et j'essaie de trouver une terminologie qui pouvait vraiment bien représenter mon image de marque, ce que je fais à tous les jours. Et finalement, il y a quelques mois, j'ai enfin accouché de ce long processus. Alors, voilà, oui, je c'est ce que je fais. J'accompagne les gens.
En toute humanité, en plus.
Ah oui, on les aime, les humains.
Bon. Ah, j'aime ça, entendre ça.
On est au bon endroit, au moins.
Est-ce qu'on peut passer sans boucle?
Oui, c'est ça. Mais c'est une affaire humaine, le bio, hein?
Absolument.
C'est pas mal associé.
Absolument. Ah non, mais c'est un sujet, écoute, c'est génial comme sujet.
Ça ne s'arrête jamais, donc. Alors, on va ensemble essayer de faire le tour de... Dans le concret, le manger bio, comment on fait ça? C'est quoi les vrais avantages? Parce que M. Baruel en a parlé plus tôt, mais c'est quoi les vrais avantages de parler bio du point de vue de la nutritionniste que vous êtes?
Oui, mais c'est sûr qu'il y a plein de bénéfices au niveau corporel en tant que tel. Mais je dirais que le mouvement biologique est beaucoup plus un mouvement éco-social, environnemental. Donc, quand moi, j'éduque mes clients par rapport à ce concept-là,
c'est vraiment, oui, il y a une qualité alimentaire qu'on peut aller chercher, mais c'est surtout ce que ça va aussi avoir comme impact et comme influence sur notre environnement et sur notre société. Donc, c'est vraiment un mouvement au niveau de vraiment respecter l'agriculture telle qu'elle est censée être, hein, parce qu'on sait maintenant que la qualité alimentaire n'est plus ce qu'elle était de par l'agriculture.
Tous les grands processus très industriels.
Oui, exactement. Donc, vraiment, le temps pendant lequel les aliments vont passer en terre va être beaucoup plus court, donc vont pas avoir la possibilité de justement de se nourrir avec tous les vitamines, minéraux possibles, comme c'était le cas il y a 20 ans, il y a 30 ans.
Ah oui, parce que dans la terre, c'est pour ça qu'on parle de produits frais, oui. On a hâte de les avoir quand c'est proche de la terre, mais exact. Quand ils passent beaucoup de temps en terre, oui. Ils ont leur plein potentiel.
Exactement, donc on appelle ça la jachère en fait, donc la jachère qui est un terme très ancien aussi là, avec les anciennes générations en agriculture.
Et nos cours d'histoire.
Oui, les cours d'histoire, exactement. Je me demandais quand ça allait servir, ce cours-là, voilà. Mais non, c'est ça. En fait, c'est vraiment tout le processus de cultiver l'aliment en terre qui va faire en sorte que ça va être un aliment qui va être nutritif ou pas. Donc ça, je vous dirais, c'est beaucoup aussi manger local. Ce concept-là devient très important dans la notion de manger local. Mais biologique, c'est vraiment plus justement dans la thématique des crèmes bio qu'on parlait et tout. Donc, c'est beaucoup plus éviter d'utiliser les pesticides. Éviter, je peux vous donner en fait la liste vraiment très claire là. Vous allez voir, il y en a beaucoup. Donc, pas de pesticides, pas d'herbicides aussi à l'étape de la culture. On n'utilise pas de fertilisants de synthèse ni de boue d'épuration. Donc, comme ça a été beaucoup le cas dans l'agriculture de consommation en masse. On n'utilise pas non plus de semences qui sont génétiquement modifiées, donc les fameuses OGM dont on parle et dont on entend souvent parler, mais qu'on ne sait pas ce que ça veut dire.
On ne peut pas savoir parce que le gouvernement a accepté de... Ah, ça, c'était...
C'est fou, hein?
Accès à l'information. J'ai l'impression quand on dit pas ci, pas ça... Nous, on veut bien comme consommateur, mais tout part du politique. En
Absolument.
Ce moment, bon, en Europe, ils se sont battus pour les pesticides. Puis je pense qu'ils ont un pourcentage qu'ils ont réussi à avoir, mais c'est vraiment pas bien.
Par ailleurs, ils ont l'étiquetage.
Ils ont l'étiquetage.
Je peux-tu faire un petit montée de
l'air?
Comment un politicien peut prendre pour acquis que le consommateur, que le peuple québécois-canadien... Ça ne l'intéresse pas de savoir que le produit est OGM ou pas. Comment il a pu se dire, ils veulent pas le savoir? Comment arrivés à ça? Moi,
vous savez, France, même avec les animaux, juste l'année passée, qu'on a décidé que finalement, ça n'était plus des meubles. Juste l'année passée, gouvernement libéral a statué.
Mais c'est déjà dans le collimateur, mais oui, c'est un bien meuble au sens de la loi.
C'est juste l'année passée. Ouais. Donc, au niveau de l'alimentation, puis je veux dire, on est loin. On est un pays sous-développé à ce niveau-là. À ce niveau-là, on n'évolue pas.
Il y a énormément de progrès.
Vous avez raison. Ils ont vraiment légiféré là-dessus en disant « Ah, le peuple canadien ne veut pas, ça ne l'intéresse pas. » Je trouve ça terrible.
Ouais, mais ça va changer. Ça va être appelé à changer, ça.
Ah, Claudine!
Les nouvelles générations, je vous fais confiance.
Il faut aller faire des pressions au niveau politique parce que justement, on ne sait pas. Et France le dit justement, quand on va, on peut en manger, puis on en mange. Puis comment on peut savoir?
Ce que je peux vous dire, c'est que vraiment, je vois une tournure dans comment les gens approchent leur nutrition maintenant. Les gens veulent savoir, veulent être éduqués. Donc moi, c'est l'approche que je prends beaucoup et que je valorise parce que je pense que les gens vont avoir beaucoup plus d'autonomie et aussi une voix, aussi une opinion par rapport à ce qui se passe au niveau de l'industrie alimentaire ici au Canada et au Québec. Donc, je vois vraiment ce changement-là au niveau de « je veux apprendre qu'est-ce qui se passe dans mon assiette, de quoi ils sont faits, mes aliments, d'où ils viennent, mes aliments aussi. Est-ce que je peux faire une différence justement dans ce système-là qui nous est encore malheureusement imposé par le système politique et social? Mais écoute, moi, je vais essayer de rester neutre.
Ben non. Mais de toute façon, moi, très souvent, les gens connaissent, je suis du bord de l'action sociale, mais c'est ça quelque chose de... Ben oui, moi, c'est pour ça qu'on est ensemble. Mais il reste quand même que c'est...
On a nos pancartes, là, pour sortir dans la rue,
sont
là.
À côté de la porte. Sauf qu'au-delà de ça, il y a quand même une espèce de militantisme de l'assiette, maintenant.
Oui.
Et rappelons quand même que ça fait seulement depuis les années 90 qu'on est au courant des OGM. On était le deuxième producteur au monde, et c'est Greenpeace et d'autres groupes qui ont fait savoir ça.
Oui.
Donc, continuer de nous informer.
Oui, le lobbyisme.
Mais écoute, c'est, ça évolue. Puis c'est juste hier qu'on s'est rendu compte comment justement on traitait nos animaux ici dans l'industrie. Puis moi, ça me fait mal au cœur à chaque fois. Mais je me dis, Claude, comment tu peux éduquer les gens? On va essayer d'ouvrir les portes, on va essayer d'ouvrir le dialogue pour justement que les gens puissent prendre de meilleures décisions. Et justement, manger biologique implique aussi qu'on ne va pas aller choisir des aliments, des produits animaux qui viennent d'espaces surpeuplés, où ils vont être aussi nourris à partir d'antibiotiques ou d'hormones de croissance, par exemple. Donc, c'est vraiment... Il y a beaucoup de respect pour la nature, il y a beaucoup de respect pour les animaux. Donc, acheter biologique a cet impact-là aussi sur justement tout le système qui est mis en place. Il n'y a pas d'ingrédients artificiels, aucun additif de synthèse. Donc, tout ce qui est transformé, tout ce qui pourrait avoir de la radiation, tout ce qui pourrait, on oublie ça. Donc, ça fait partie. La certification biologique va vraiment inspecter tous les produits et les aliments qui sont émis par ce producteur-là pour s'assurer que tout est en règle.
Et on aurait aimé de parler davantage de la certification. Oui. Je pense qu'on va devoir
en reparler.
C'est un long
processus.
Ouais. Mais est-ce qu'il y a une ou deux adresses où on pourrait aller se rendre? On les mettra sur la page de l'émission.
Pour le cosmétique. Écocert pour le...
Absolument. Écocert, c'est pour l'agroalimentaire à travers le Canada.
Donc, assurons-nous, allons là pour s'assurer que le biologique qu'on mange est de fait biologique.
Oui.
Et d'ici là, ben, il ne nous reste plus qu'à se redonner rendez-vous avec Claudine
Absolument.
Larivière, nutritionniste, spécialiste de la productivité humaine et éducatrice au mieux vivre en collectivité.
On aime ça.
Merci.
Alors, mesdames, messieurs, les discussions en studio, là, on est des gens qui sont passionnés, qui ont envie de faire des belles choses et qui sont à l'écoute, surtout France d'Amour. Merci. Une heure comme ça. Et puis, on vous a découvert parce que vous en avez parlé, mais là, vous êtes une passionnée. Hein.
Ah, ben oui,
ça fait longtemps, puis ça occupe votre vie, vos lectures. Vous aimez ça. Qu'est-ce que vous avez appris aujourd'hui dans cette émission?
Je me sens moins seule. Je me sens moins seule. Je sens que le mouvement est en train de. Puis j'ai beaucoup aimé quand tu disais que c'est plus un mouvement écologique. Moi, je le vois social, je le vois planétaire, environnemental. C'est plus ça que juste manger bio parce que ça goûte, parce que ton poulet est meilleur ou ta tomate est meilleure. C'est vraiment plus ça que... Puis je passais souvent, quand je suis allée rencontrer les gens de Jean Coutu pour mes produits, puis bon, on s'est fait refuser, mais... c'est parce qu'en fait, tu disais, quand il va y avoir de la demande, tu sais, quand il va y avoir de la demande, faites votre travail, créez la demande.
Bon.
Mais le pire, c'est que ma sœur travaille en pharmacie, dans une autre pharmacie compétitive, elle dit, il y a de la demande. La madame a dit, écoute-moi, j'aimerais ça avoir une crème un peu moins chimique. Mais les vendeuses leur vendent des produits qui sont chimiques. Ils disent, oui, ça, c'est plus naturel. Donc, il y a un travail. Je pense que c'est en train de faire son chemin. Puis les gens veulent de plus en plus avoir des trucs plus santé,
Alors,
plus respectables.
Et est-ce que vous avez beaucoup d'apôtres, comme le dit, du bio autour de vous? Vos amis aussi le sont? Comment ça se passe, l'environnement direct?
Ça dépend des personnes, mais comme je te dis, il y a de plus en plus une conscience. Les gens sont concernés par leur santé, puis... Il y a un instinct de « il y a quelque chose qui ne marche pas ». Il y a quelque chose que c'est pas... On voit de plus en plus de trucs sur Facebook, des vidéos atroces sur la mer qui est contaminée, les poissons avec les sacs et tout ça. Je pense qu'il y a un éveil là, au niveau de la société par rapport à ça.
Et donc, on comprend que c'est collectif. On avait aussi Claudine Larivière qui l'avait pointé. Hein, puis on est content, France. C'est pas juste le bien-être qu'on a en mangeant bio auquel on pense. Vous êtes une femme qui rallie à l'environnement, dans le fond.
Je le souhaite, sincèrement. Ça va être... tout le monde va en bénéficier, de toute façon.
Mais on va revenir quand même à votre médecin famille deux instants.
Ah, ben oui!
Parce qu'on vous a demandé, en préparant l'émission, quelles questions vous aimeriez poser à votre médecin puis que vous avez jamais osé. Et on est avec... Docteur François Baruel, pardon, je m'excuse. Et donc, allez-y, on vous laisse poser votre question.
Ma question, c'est comment les médecins font aujourd'hui pour faire la part des choses entre toutes les études au niveau de la pharmacologie, qui est un lobby, qui est une multinationale, qui est énorme, puis
Et toutes les autres études à gauche, je dirais, parce qu'on sent que les médecins, puis on l'a vu avec plein de reportages, entre autres à Paul Arcand et tout ça, que les médecins sont comme achetés donc, par la pharmacologie. Donc, comment on fait la part des choses quand on est un médecin? Est-ce qu'à un moment donné, on abandonne pour faire garde? Moi, j'abandonne.
Et tout ça en 1 minute 30.
Oui, voilà. Bonne chance.
Alors oui, merci. C'est gentil. Hein. C'est une petite question toute simple. Hein.
Toute simple. Mais vous allez revenir.
Alors oui, parce que ça demandera des développements. Mais c'est vrai que quand on se fait visiter au départ, c'est vrai qu'on nous présente toujours des choses qui sont des schémas, des diagrammes phénoménaux. Mais en fait, on s'aperçoit nous-mêmes, en cabinet, enfin en clinique, que certains produits sont inefficaces. On le sait aussi, ça se dit, heureusement, parce que ça s'apprend, c'est une espèce de culture parallèle qui s'apprend à la faculté. Mm-hmm. On sait que tel médicament, bah, on le donne parce que les labos le veulent, parce que je pense à des produits, des vénotoniques notamment, enfin des choses comme ça qui sont abandonnées maintenant. Mais en fait, on s'en aperçoit soi-même. Je me suis aperçu que des médicaments étaient complètement inefficaces, des antibiotiques dans certains cas, qui étaient pourtant présentés comme spécifiques de ces cas-là, alors que c'était complètement faux. Ensuite, j'en ai parlé avec des copains. Et donc, on s'est dit, mais oui, c'est vrai, ça ne marche pas du tout, ça, ce truc-là. Qu'est-ce qui se passe? Ils nous l'ont pourtant vachement vendu, hein, chez Pfizer. Hein.
Puis en plus, vous n'avez pas accepté la croisière. Hein, parce que...
Exactement. Le nombre de fois que je me suis fait inviter. Alors, ma réponse, c'était à chaque fois, ils m'invitaient pour aller à tel endroit, dans un... Je disais, mais moi, je voudrais y aller. Mais
non, on vous emmène
en avion. Mais non, moi, je veux prendre le train. Ah non, on ne peut pas. Hein, ça, c'est...
Aïe, 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 pas mal.
Au moins, c'était le moyen de refuser. Mais c'est comme ça que ça se passe progressivement, parce que sinon... Et puis enfin, c'est vrai qu'on a l'expérience des produits, genre des produits qu'on donne lorsqu'on prend des antibiotiques et des produits qu'on donne pour compenser les choses. Mais beaucoup de médicaments sont complètement inefficaces de ce point de vue-là, en fait.
Êtes-vous, entre guillemets, puni si vous ne suivez pas le...
On n'est pas puni. Sauf par les laboratoires qui... Ça m'est arrivé, ça. Il y a un laboratoire qui est arrivé qui m'a dit une fois, « Mais enfin, je suis venu vous voir et vous n'avez pas prescrit. » Je lui ai demandé, « Mais comment vous le savez ?» Je suis allé voir le pharmacien.
Et voilà.
Oh là là.
Wow. Ils ont le monopole. Donc,
c'est fabuleux.
C'est une autre émission.
C'est odieux. Ouais, c'est encore l'argent qui...
L'argent pilé dessous mais... là, de la pratique médicale. On va regarder ça un peu plus tard.
Mais il y a des médecins qui ont des éthiques.
Bah oui. Bah, à l'émission, c'est que des professionnels qui ont des éthiques. Voilà. C'est ça qu'il faut se dire.
Voilà. Bon,
oui. Alors, ben, l'émission tire à sa fin. Donc, il ne nous reste plus qu'à vous remercier.
Merci beaucoup, France.
Ça me fait vraiment plaisir. Je vous souhaite longue vie, plein de succès. Vous avez des beaux invités, bien sûr.
Ben oui.
des bons, des personnes, des chroniqueurs fantastiques.
Et vous avez des beaux projets.
Oui, tout à fait. Donc, moi, je continue à faire de la musique. C'est la meilleure des médecines, tant qu'à moi. Et puis, je vous souhaite une très, très belle saison. Merci beaucoup de l'invitation.
Merci d'avoir accepté.
C'est heureux. Merci beaucoup. Et évidemment, cette émission n'aurait pas pu être possible sans les chroniqueurs qui sont venus. Claudine Larivière, qui est à côté de moi, Dr Baruel, Chantal Goyette, spécialiste du monde des cosmétiques. Merci à vous. Sans oublier l'équipe technique.
Bien sûr, Jean-Sébastien de la Liberté à la mise en onde et Catherine Bourderon à la recherche.
Ah, et donc, ici Benoît Racette.
Sophie Stanquet.
Et avant qu'on se quitte, vraiment, il faut le dire, qu'on se le dise en ce début d'année, c'est bon pour la santé de célébrer. On entend d'ailleurs la chanson interprétée par France D'Amour, Let's Celebrate. Et puis, ben, on se dit tous ensemble.
C'est bon pour la santé!
Bye bye, mesdames, messieurs.
Look up there through the sleet. How the sun turns to gold. Don't stay out in the snow. Tell me what's on your mind. Come see the embers glow. This day, when the world is hoping that everyone can play without fear of dying, I know what you mean. Children sleep in the street, but let's beat the machine. Let's not think of defeat.